vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Après cela, ils vont rester très amis. Jules n'a pas oublié Sylvain, mais il est plus détendu. Dans l'après-midi, Charles-André, après son travail, s'est enfermé dans sa chambre pour se reposer un peu. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique qui lui dit « Monsieur, il y a Madame Capson qui désire vous voir. » Il n'a pas dit ce qu'elle voulait ?« Non, monsieur. »« Bien, je descends. Mettez-la dans le petit salon. »« Bien, monsieur. » Et le domestique se retire. Jean-André se demande ce que lui veut Ulla. Si elle me demande l'argent, j'en ai pas. La chose est classée.
Il se lève. Range ses vêtements et sort de la chambre. Pourvu que père ne sache rien sur cette histoire, il va au petit salon. Oui, pourvu que père ne sache rien de cette histoire.
Il la voit, Ulla, dans une magnifique robe vert pâle. Elle tient à la main un petit garçon d'à peu près 2 ans. Bon, blond, bouclé, un visage d'ange, habillé en marin. Charles-André va vers eux. Bonjour, Ulla. Bonjour, Charles-André. Il lui demande, c'est ton enfant? Oui. Il est joli. Merci. Asseyons-nous, je vous en prie.
Ulla va s'asseoir sur un canapé avec son petit garçon. Et Charles-André dans un fauteuil en face d'eux.
Il lui demande, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Tu es venu me voir pour quelque chose? Oui, non, je suis venu te dire, c'est que je repartais retrouver mon mari en Angleterre. Tu pars définitivement? On ne sait jamais. Je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas. Tu sais, avec un enfant, ce ne sera pas facile de s'expliquer. Charles-André lui demande, ton mari ne sait pas? Non, pas vraiment. En fait, je lui ai dit, mais il ne l'a jamais vu. Il m'a dit qu'il me pardonnait et acceptait de le prendre. Mais on ne sait jamais. Et puis sa famille risque de le faire changer d'avis. Si je comprends bien, l'enfant est d'un autre. Elle lui dit, le petit semble avoir soif. Il n'aurait pas quelque chose. Jean-André lui demande, un jus d'orange? Mais cela sera l'affaire. Jean-André sonne un domestique et il demande, il a quel âge? 2 ans déjà. Entrez. C'est le domestique. Apportez du jus d'orange et du café. Bien, monsieur. Charles-André lui demande, comment se comporte le père du petit? Elle lui dit, il ne sait pas. J'ai pas osé le lui dire. Mais maintenant que je quitte la France, j'ai envie de lui dire. Bien entendu, c'est juste pour qu'il le sache et voie son enfant. Il est le père tout de même. Mais je lui demanderai rien, parce que mon mari a décidé de lui donner son nom. En fait, je l'espère, parce qu'on ne sait jamais. Tant qu'il ne l'a pas vu, je ne peux pas savoir ce qu'il va décider. Cela va peut-être éveiller sa jalousie en voyant le fruit de l'adultère. Que feras-tu? Et soupire, elle lui dit, je quitterai mon mari et irai vivre quelque part avec le petit. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique qui vient avec le plateau. Il va le déposer sur la table basse en face d'eux. Merci, je servirai. Et le domestique s'en retourne.
Charles-André a préparé un verre de jus d'orange qu'il tend à Ulla qui le donne au petit. Puis, il prépare le café. Sucre, lait, du lait, merci.
Une fois que le petit est fini de boire, Charles-André demande, il en veut encore? Il lui dit, non, merci. Et ils boivent leur café. Charles-André lui demande, tu es très attaché à ton petit. Oui, beaucoup. Surtout que j'ai aimé son père, mais lui ne s'est rendu compte de rien. Charles-André lui dit, c'est pas un homme très sérieux? Elle lui dit, il était insouciant et jeune. Comment s'appelle le petit? Williams. Joli nom, merci. Comment crois-tu que le père va apprendre cette nouvelle? Je ne sais pas. Elle regarde sa montre et lui dit, il est temps que je parte. Déjà? Oui, je prends le train tout de suite. Ils se lèvent tous deux. Il la raccompagne jusqu'à la sortie. Il lui dit, je te remercie de m'avoir fait cette visite avant ton départ. Bon voyage à tous deux. Il est vraiment délicieux, ce petit enfant. Merci, il te plaît. Et elle lui dit d'un coup, parce que tu es ma dernière visite. Il lui dit, tu ne vas pas voir son père? Elle lui sourit, il lui dit, voilà c'est fait, mais... Il lui met la main sur sa bouche, puis s'en va. Il lui court après. Lula, je suis le père. Elle ne retourne pas et elle est entrée dans le fiacre qui va la mener à la gare. Charles-André entre chez lui, abasourdi. J'ai un enfant qui a 2 ans, un enfant, Williams. Et tout à coup, il se dit, je ne le reverrai plus. Un autre va se faire appeler papa. Mon Dieu, Ulla, je veux le revoir, c'est mon fils. Les jours passent. Un matin, Jules reçoit une lettre de Sylvain qui lui dit qu'il revient à Lyon. Jules est heureux, mais en même temps il est inquiet. Comment va-t-il le retrouver? Ne fera-t-il pas trop homme marié? Va-t-il le revoir seul? Une semaine plus tard, Sylvain lui envoie un mot pour lui dire de revenir, de venir le voir. Il y va. Le couple habite chez la mère de Sylvain. Sylvain le reçoit seul. Ils sont tous deux dans le salon, l'un à côté de l'autre. Une fois qu'ils se sont embrassés et assis, Jules demande, le voyage s'est bien passé? Oui, ça a été merveilleux. Patricia est une femme merveilleuse. Nous avons vécu des moments inoubliables. Je suis heureux pour toi, Sylvain lui dit. Mais l'on ne t'a pas oublié, la preuve, nos lettres. Oui, je vous remercie, Sylvain lui dit. Je suis sûr que toi aussi, plus tard, tu vas rencontrer une personne qui t'aimera et que vous allez être heureux. Jules sourit et lui dit, moi, tu sais, le bonheur. Sylvain lui dit, moi aussi j'étais comme toi. Et puis tu vois, je lui demande, que vas-tu faire maintenant? Sylvain lui dit, nous avons reçu une lettre des parents de Patricia. Ils veulent me connaître et disent que nous pourrions nous installer là-bas. L'Australie est un pays d'aventuriers. Alors nous avons décidé d'y aller. Jules est effondré. Alors, je ne te reverrai plus? Sylvain lui dit, nous écrirons souvent et puis je viendrai voir ma mère et tu verras. Mais toi, tu n'as qu'à partir toi aussi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Jules se dit, pourquoi pas? Mais il se voit dans un pays à moitié sauvage. Seul, avec un Sylvain marié, sera le troisième, celui qu'il faut inviter. Non, c'est pas possible. Et puis Sylvain va créer une famille, des enfants. Il aura aussi sa belle famille. Que va-t-il faire, lui, Jules, au milieu de tout ça? Non, c'est impossible. Il dit à son ami, je te remercie, mais je ne peux pas aller là-bas. Toi, tu vas avec ta femme créer un foyer. Ce n'est pas pareil. Moi, je serai seul entre vous. Non, c'est pas possible. Sylvain lui dit, comme tu voudras, mais tu vas beaucoup me manquer. Je lui dis, et à moi? Partez quand? Nous partons, nous ne déposons pas nos bagages dans 3 jours. Je lui dis déjà, et oui, c'est à cause du bateau. Je lui ai effondré. Mais ne le montre pas. Il accompagne Sylvain et sa femme jusqu'à la gare. dernière fois son joli visage, puis se sont embrassés. Jules se dit qu'il ne le verra plus jamais. Et dire que je n'ai même pas un portrait de lui. Il se sent seul, seul. Une belle page de sa vie vient de se terminer. Essaye de se raisonner. De toute façon, je l'aurais perdu. Il était marié. Une fois marié, c'est fini. Pauvre Sylvain, que va-t-il trouver là-bas? Pense tous les jours à la nuit, et la nuit rêve à son beau visage. Un jour, il reçoit une lettre. Sylvain est enchanté du pays. Tout lui plaît, et la belle famille est gentille avec lui. Elle a trouvé un petit travail chez un notaire. Les jours passent. Et puis, un matin, Jules se dit que la vie doit continuer. Bien sûr, il gardera dans son corps Sylvain. Il aimera toujours, toujours, toujours. Il regarde autour de lui les jeunes gens de son âge qui se marie, travail, famille et moi. Vais-je rester en marge, être un être à part, un vieux garçon solitaire que tout le monde trouvera maniaque et égoïste, parce qu'un homme qui vit seul aux yeux de la société est forcément égoïste. Quel avenir? Je me vois seul en robe de chambre et charentaise, me faisant chauffer dans une vieille casserole des pâtes collées fades. Non, non. Je suis jeune et je ne veux pas vivre comme ça. C'est pas parce que je n'ai pas les mêmes goûts que les autres que je dois vivre de cette façon. Et puis, j'ai besoin aussi d'indépendance, d'être chez moi. Le fils à papa, c'est passé. Je suis en âge d'être le papa du fils. Je ne suis pas pressé de l'être, mais enfin, je peux l'être et dois l'être. Voici à quoi il pense. Ses pensées sont surtout pour se donner du courage et avoir des projets d'avenir après la fin avec Sylvain. Vous me direz, puisqu'il n'aime pas les femmes, pourquoi se voit-il son avenir avec une femme? Parce que la société est ainsi faite que même un homosexuel ne peut voir son avenir qu'en vivant comme les autres. Faire partie de la société, c'est être comme tout le monde. Autrement, l'on ne fait pas partie de cette société. Et un jeune homme qui a dépassé 20 ans ne rêve que d'être comme tout le monde pour se faire une place au soleil. Et Jules est comme tous les jeunes de son âge. Il souffre de ne pas avoir les mêmes goûts que ses condisciples, d'être obligé de se cacher. Il aimerait être comme tout le monde. Il se dit que sa vie serait beaucoup plus simple. Que cela ne choque personne lorsqu'un jeune raconte ses fredaines avec une femme, et même avec des détails piquants. Il en est fier, et même sa famille aussi. Cela prouve qu'il est comme tout le monde. Tandis que lui, il ne le peut pas. S'il le faisait, ce serait la honte. On se moquerait de lui. On serait outré. On le prendrait pour quelqu'un de pas normal. Voilà à quoi pense Jules. Et il se dit, il faut que je réagisse, car il va être trop tard, ou je choisis la clandestinité, ou je me marie. Comme se cacher constamment, ce n'est pas une vie, il décide de se marier. Je vais trouver une gentille et jolie femme de la société. Même si je ne l'aime pas, je la respecterai. Je ferai des enfants, et elle sera heureuse. Et moi, serais-je heureux? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'était quelqu'un, un homme, un monsieur. Le bonheur, ça ne sert à rien ou qu'à souffrir. On tombe amoureux d'une personne et dès qu'on est amoureux, on souffre. L'amour, ce n'est pas la joie. La preuve avec Sylvain, depuis que je le connais, je ne fais que de souffrir à cause de lui. La passion, c'est bon lorsque l'on est jeune. Mais dans la vie, rien ne vaut une bonne place dans la société, une bonne situation. Et avoir l'air heureux, rangé. Et pour prouver que l'on aime sa femme, lui faire un enfant de temps en temps. Bien entendu, la société accepte qu'après un certain temps, l'on ait une maîtresse. C'est même bon. Le bonheur, ça ne sert à rien ou qu'à souffrir. On tombe amoureux d'une personne et dès qu'on est amoureux, on souffre. L'amour, ce n'est pas la joie. La preuve avec Sylvain, depuis que je le connais, je ne fais que de souffrir à cause de lui. La passion, c'est bon lorsque l'on est jeune. Mais dans la vie, rien ne vaut une bonne place dans la société, une bonne situation. Et avoir l'air heureux, rangé. Et pour prouver que l'on aime sa femme, lui faire un enfant de temps en temps. Bien entendu, la société accepte qu'après un certain temps, l'on ait une maîtresse. C'est même bon ton. Et cela prouve que l'on est encore vert et peut plaire. Mais surtout pas un petit ami. Car là, ce serait un scandale. On plaindrait la femme et les enfants. On serait rejeté comme un criminel. Oui, moi. Mais, pour moi, le mariage, le travail, les enfants, cette réussite dans la société, c'est pas le bonheur, mais de l'orgueil. Les gens ne sont pas heureux, mais orgueilleux. Et sans l'orgueil, ils ne chercheraient pas à se faire un nom dans la société et être comme tout le monde. Je te dis bien tout ça, mais il se dit que les choses étant ainsi, que lui aussi va faire comme les autres, sûrement par orgueil, en sacrifiant l'amour. L'après-midi où il fait particulièrement chaud, c'est début de l'été, le ciel est bleu, la Saône a la même couleur que le ciel mais avec des reflets d'argent comme la mer. Les gens marchent nonchalamment, ils semblent ne pas avoir envie de rentrer chez eux ou aller à leur travail. Jules marche aussi. Il a envie de douceur, d'oublier ses peines. Et que quelque chose le distrait. Une jeune fille, en sortant d'une boutique avec des cartons pleins la main, le bouscule et fait tomber ses cartons à terre. Elle dit « Zut !» Elle se baisse pour les ramasser. Jules aussi. Vous permettez, une fois qu'ils ont ramassé les cartons, que Jules a gardé à la main, et lui demande « Vous allez où avec ça ?»« Chez ma mère. » C'est une de ses commandes. Elle ne pouvait pas y aller chercher. Alors comme si personne ne pouvait y aller, je vais y aller avec mon frère, mais il n'a pas pu venir. Ce qui fait que je me trouve avec tout ça. Jules regarde bien la jeune fille. Elle est grande, mince, blonde, cheveux en chignon, des yeux bleus, le visage fin. Donc, charmante jeune fille en robe d'été blanche. Je lui demande, vous habitez loin ? Deux rues plus loin, la rue de Brest. Je crois qu'il vaudra mieux que vous preniez un fiacre. Jules fait signe à des flocs de s'arrêter. Malheureusement, aucun le fait. La jeune fille lui dit « Tant pis, on ferait mieux de rentrer à pied. » Je lui dis « Je vous accompagne. » Elle lui dit « Merci. » Se met en route. Heureusement, les cartons ne sont pas bien lourds. La jeune fille lui demande « Vous êtes de Lyon ?»« Oui, et vous ?»« Moi aussi. » »« Je m'appelle Jules Beaumandin. » Marie-Chante Perdry. Voilà, nous sommes arrivés. C'est un immeuble neuf de luxe de 5 étages. Elle lui dit, je vous remercie monsieur. Vous entrez? Je vais vous présenter à ma mère. Et vous prendrez le thé aussi avec nous? Oui, je veux bien. On ne peut pas refuser une invitation d'une si jolie jeune fille. Elle lui sourit et ils entrent dans l'allée. Vorst clair. Grand escalier de marbre avec tapis rouge. Il y a même l'ascenseur hydraulique. Il la suit. Elle va vers l'ascenseur. Et lui dit, c'est au deuxième étage. Ils entrent dans l'ascenseur.
Arrivé au deuxième, ils sortent.
Et elle va sonner à la porte gauche. Une bonne grosse avec une bonne bouille lui a ouvert. « Bonjour Amélie, prenez les cartons du jeune homme. » La bonne s'exécute, puis elle prend ceux de Marie. Marie lui demande « Mère est au salon ? Vous, madame ?» L'appartement est meublé Louis XV.
Elle frappe une porte.
« Entrez !»
Ils entrent.
Un grand salon clair, peinture blanche, tapisserie beige, pâle, meuble Louis XV. Une dame habillée de noir, cheveux chantants, un chignon, qui semble grande, mince, est assise à un fauteuil, un livre à la main.
Oh, c'est toi, ma fille.
Oui, mère, et je me suis permis, c'est de vous amener ce jeune homme qui m'a aidé lorsque j'ai fait tomber mes paquets. Il m'a raccompagné jusqu'ici.
Monsieur.
Madame, je m'appelle Jules Beaumandin.
Je vous remercie, monsieur, d'avoir aidé ma fille.
Asseyez-vous, je vous en prie. Et lui montre une chaise en face d'elle.
Et Marie s'assoit à côté de sa mère.
Une petite table basse se trouve entre elle et lui. La mère demande, « Vous êtes de Lyon ?»«
Oui, madame. Et à la rentrée prochaine, je serai professeur au lycée Saint-Michel. »«
C'est bien, jeune homme. Moi, mon mari est professeur de lettres au lycée du Parc. Ma fille s'intéresse à la botanique et à un frère jumeau, Alexandre, lui étudiant de droit. »
Je lui dis, « J'ai un frère et une sœur. Mon frère aide mon père dans les affaires. » Il construit des immeubles et loue des appartements. Ma sœur ne fait rien et ma mère non plus.
La mère lui dit, vous allez prendre le thé avec nous.
Je ne sais pas.
Si, pour vous remercier d'avoir aidé ma fille.
Elle sonne.
Je le regarde Marie et la trouve très belle. Elle a les traits d'une finesse exquise et un maintien parfait. Elle semble douce et discrète. Il se dit qu'elle ferait une femme parfaite. Il ne la désire pas physiquement, l'aime comme un tableau, une belle œuvre d'art.
Entrez.
C'est la bonne. Elle lui dit, apportez-nous le thé. Et sûrement qu'Alexandre ne va pas tarder à venir. Une tasse pour lui aussi. Bien, madame.
La mère lui dit, vous allez faire connaissance avec mon fils.
Marie lui dit, Alexandre n'est jamais là alors. Alors peut-être qu'est-ce que vous ne le verrez pas.
Entrez. C'est la bonne. Elle apporte le thé qu'elle va déposer sur la table basse.
Merci, vous pouvez disposer.
Et la bonne se retire.
mère fait le service.
La mère demande à Jules.
Lait, sucre, citron, 2 doigts de lait, merci.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.